Merci, mon colonel. Nous allons passer tout de suite aux questions et réponses. Je voudrais vous rappeler que nous avons aussi dans cette salle des collègues des différentes agences des Nations Unies. Vous pouvez leur adresser vos questions si vous en avez. Comme d'habitude, je vous demanderai de bien vouloir fermer vos téléphones ou de les mettre sur silencieux. Et à ceux qui vont prendre la parole, veuillez vous présenter ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Nous allons commencer sur la droite. Si on peut amener le micro, nous commençons la première personne ici à ma droite. Monsieur Omba.
Merci pour la parole, Albert Omba, Numérica TV. Monsieur le porte-parole, je voudrais juste demander si la MONUSCO pourrait réagir à la vérité ou, je ne sais pas, la parole dite par le président de la CENI, parole concernant l'implication de la MONUSCO qui lui a donné des résultats faux à Monseigneur Mosengo. Et ces résultats ont été publiés. Comment réagit la MONUSCO à ce sujet? Et la seconde préoccupation concernant le mandat de la MONUSCO qui vient d'être renouvelé, est-ce qu'il y a eu changement par rapport au terme de ce mandat, par rapport à la stabilisation où une autre donne vient de s'ajouter? Merci.
Merci beaucoup. Oui, nous avons tous aussi pris connaissance de la déclaration du président de la CENI devant l'Assemblée nationale. Vous me permettez d'abord de dire que le pasteur Mulunda étant un homme de Dieu, nous avons tous un devoir de le respecter. Par conséquent, je ne vais pas polémiquer ici avec lui. Maintenant, puisque vous me posez une question, vous avez droit à une réponse. Je ne vais pas insulter votre intelligence, vous mes chers collègues, ni celle de la population congolaise, et encore moins l'intelligence des membres du Parlement devant lesquels cette déclaration a été faite. Nous connaissons tous les conditions dans lesquelles les élections se sont tenues ici. La MONUSCO s'est cantonnée exclusivement dans le rôle que lui a confié le Conseil de sécurité, c'est-à-dire un rôle de soutien technique et logistique. Plusieurs fois, dans cette salle même et ailleurs, d'ailleurs, vous nous avez fait le reproche de ne pas nous prononcer sur ce qui se passe. Le processus électoral en lui-même ou les chiffres qui ont été donnés. Nous n'avons joué aucun rôle dans la compilation des votes et nous n'avons jamais donné de résultats au niveau de la MONUSCO. On nous parle d'un fonctionnaire des Nations Unies qui aurait ou qui a envoyé un mail qui aurait induit Monseigneur Mosengo en erreur. Je m'arrête là. C'est un mail personnel envoyé par une personne qui travaille à la MONUSCO et d'ailleurs, un, qui n'est plus à la MONUSCO, deux, qui ne travaille pas à la division électorale, trois, qui ne joue aucun rôle, ni de près, ni de loin, dans le processus électoral, ou même dans le soutien que la MONUSCO apporte au processus électoral. Dans cette salle, vous et moi, je suis sûr, vous avez envoyé des mails à des amis, à des collègues, à des gens que vous connaissez, pour donner votre point de vue sur ce qui se passe. Donc, je le répète, et comme ça a été dit, c'est une personne qui travaille à la MONUSCO qui a envoyé un mail personnel. Ce n'est pas un document de la MONUSCO, ce n'est pas un document officiel. Soyons donc très clairs là-dessus. Maintenant, on veut se baser là-dessus pour commencer à justifier, je dirais, un certain nombre de lacunes qui ont entraîné un certain nombre aussi de mouvements après les élections que nous avons tous connues ici. Je le répète, la MONUSCO ne s'est jamais prononcée concernant les différents chiffres qui ont été avancés, ni sur le processus électoral. Maintenant, vous tous qui êtes dans la salle, vous connaissez le nombre d'organisations et de personnes qui ont porté des jugements sur le processus électoral. La société civile congolaise, les organisations non gouvernementales congolaises, les pays qui ont envoyé des observateurs, certaines ONG internationales ont porté des jugements sur le processus électoral. Je dirais même que lors de la conférence qu'il a donnée après les élections, le chef de l'État lui-même a reconnu qu'il y a eu un certain nombre, je ne le cite pas, mais c'était dans cette idée, le chef de l'État lui-même a reconnu qu'il y a eu certains errements dans le processus électoral. Je pense que là où nous sommes aujourd'hui, nous devons tirer les leçons de ce qui a été et de ce qui n'a pas été, puisque nous avons encore des élections à venir. Maintenant, se baser sur un mail, quand envoyer un individu pour dire que c'est lui qui a voulu créer le chaos dans ce pays, je pense que nous voyons trop de films. Ce n'est pas Rambo qui détruit toute une armée. Ce n'est pas James Bond qui fait la loi lui tout seul. Une personne qui vient ici pour mettre ce pays à feu et à sang, je ne le crois pas. Donc, par conséquent, je pense que nous devrons être sereins. Nous devons être sereins, nous tous. Essayer de reconnaître nos faiblesses, s'il y en a. Ce que nous avons fait en bien, s'il y en a. Et aller de l'avant. Mais, autrement dit, je pense, et encore une fois, le pasteur Mulunda est un homme de Dieu. Sa bouche n'est autorisée qu'à dire la vérité. Et je pense que la vérité de l'homme peut aussi faillir. Par conséquent, je m'arrête là pour vous dire simplement que je vous donne sous ces éléments, je vous sais intelligent. Vous pouvez réfléchir par vous-même et tirer les conclusions. Prochaine question, s'il vous plaît. Oh, je crois une deuxième question concernant le mandat. Le mandat, dans le fond, ne change pas beaucoup. Mais vous auriez vu, vous auriez lu, pour ceux qui ont eu pris le temps de lire ce mandat, qu'à plusieurs reprises, le Conseil de sécurité demande à la MONUSCO de faire davantage, de prendre des mesures novatrices, etc., etc. Est-ce à dire que la MONUSCO n'a pas fait assez dans le passé? Non. Simplement que l'engagement du Conseil de sécurité et de la communauté internationale reste entier et à chaque fois, on demande toujours à la MONUSCO de faire toujours un peu plus, surtout dans le domaine de la protection des civils. Pour votre information, la MONUSCO est à la pointe, je dirais, de cet exercice de la définition même du concept de protection des civils. Des choses comme l'équipe des équipes conjointes de protection, le réseau de communication de protection des civils, nos militaires que nous déployons dans le cadre des COB ou des TOB, etc. Tout ça sont des innovations qui viennent de la MONUSCO. Toujours en cherchant à mieux protéger les civils que ces différents concepts ont été développé et qui maintenant peut être aussi appliqué dans d'autres missions de paix. Et je pense que c'est une reconnaissance de l'effort que nous faisons quand le Conseil de sécurité demande de toujours continuer à aller de l'avant et de toujours faire mieux. Deuxième question. Oui, allez-y.
Merci. Kirema est de l'agence congolaise de presse ACP. Une petite question à mon colonel. Qu'est-ce qui fait que les rebelles, si je peux le dire, de M23 continuent à occuper les villages de Tchanzu, Mbuzi et l'autre? Est-ce que on ne parvient pas à les déloger? Ou bien qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'il y a des défections de la part de FRDC? Ou quelle est la situation exacte? Ensuite, la même situation se présente en province orientale, avec le FRPI. Qu'est-ce qui fait qu'ils continuent à occuper les territoires qu'ils occupent aujourd'hui, alors qu'en tant que groupe armé, ils devraient être chassés par les forces armées de la RDC? Merci.
Merci pour votre question. Vous me permettrez de commencer par la deuxième, relative un peu au déploiement FRPI que nous observons au sud du territoire d'Irumu depuis le mois de février 2012, parce que comme vous le savez, le FRPI avait clairement décliné son intention de se rendre au FRDC et de rejoindre l'armée nationale congolaise. Et cette requête avait été mise sur la table du gouvernement, et jusqu'à présent, les pourparlers, des activités diplomatiques, des discussions sont en cours pour essayer de voir quelle est la meilleure formule à appliquer à la requête soumise par le FRPI au sud du territoire de Rumo. Donc, mais vous savez aussi que, à partir d'un certain moment, les FARDC avaient un peu, s'étaient redéployés à partir du territoire de Rumo, et que des vides avaient été laissés, avaient été créés, et les FRPI en a profité pour s'installer. Mais toujours est-il que, aussi bien le FRPI que la force de la MONUSCO, nous sommes en train de conduire une opération dans cette zone-là qui s'appelle Eagle Claw ou le cerf de l'aigle, qui se résume à des activités de sensibilisation qui sont menées aussi bien par la force de la MONUSCO que par les FRDC. Cette opération était censée être conduite en trois phases. Les deux phases ont été mises en place. Il reste la troisième phase qui consiste en un redéploiement des troupes FRDC dans les positions qu'ils avaient naguère occupées avant leur redéploiement. Donc, pour l'Irumu et le FRPI, jusqu'à aujourd'hui, les négociations sont en cours, mais la troisième phase de redéploiement ne s'est pas faite, et les activités de sensibilisation que nous menons pour essayer de détacher les populations civiles de ce groupe armé, mais aussi de mettre le FRPI en garde contre toute tentative d'exaction ou en tout cas de violence qui pourrait être commise sur les populations civiles de cette partie du territoire. Donc le statu quo demeure dans cette partie du territoire. Maintenant, pour ce qui est du M23 qui occupe les positions de Tchanzu, Mbuzi et Runyoni, vous le savez bien, dès les premières heures des défections qui ont été enregistrées au sein des FRDC, les gens sont allés naturellement dans le Rutshuru, qui se trouve être leur ancien terrain de prédilection, et c'est un terrain très accidenté, car vous le savez, il y a plein de mouvements de terrain, et les collines sont occupées de Tchanzu, Mbuzi et Runyoni, sont occupées par le M23, et jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu des tentatives de délogement par les FRDC, et jusqu'à présent, le statu quo est là, les positions sont les mêmes, et la force de la MONUSCO est toujours engagée aux côtés des FRDC pour les appuyer dans cette traque contre le M23, et comme vous le savez, d'ailleurs, la résolution 2053 le stipule clairement, elle encore commande à la MONUSCO d'appuyer son soutien afin de combattre le M23. Donc, l'un dans l'autre, pour le moment, c'est le statu quo, et il y avait une pause qui avait été observée aussi à cause des examens d'État qui se passaient dans la région de Bounagana, où la force de la MONUSCO avait réuni tous les candidats à cet examen pour que les choses puissent se passer normalement, mais aussi à cause d'une trêve qui a été déclarée de part et d'autre par les FRDC et le M23 pour permettre le déroulement de ces examens. Donc jusqu'à présent, nous sommes à ce niveau et nous espérons tout simplement que les choses vont s'améliorer très bientôt dès que les FRDC, supportés par la MONUSCO, auront initié des actions tendant à éradiquer ou à déloger le M23 des positions tenues.
Oui, une question encore ici. Avant de passer sur la gauche, prenons une autre question.
Merci, c'est Blaise de AITV. Monsieur le porte-parole, il y a les experts de l'ONU qui avaient récemment publié un rapport dans lequel les officiels rwandais, militaires, tout comme politiques, ont été cités, qui soutenaient le M23. Et en rapport à cela, il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui demandent à l'ONU de prendre carrément des sanctions contre le président du Rwanda parce qu'il soutient des personnes qui se rendent coupables des violations massives de droits de l'homme. Ma question est celle de savoir, est-ce que l'ONU est-elle prête à franchir le cap dans ce sens? Merci.
Bon, quand vous dites l'ONU, vous dites pas la MONUSCO. Donc, ce n'est pas une question qui est adressée à la MONUSCO. En général, quand les gens disent l'ONU, c'est ou le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale. Donc, attendons de voir comment l'ONU va répondre à cette requête. Prenons au moins une question sur la gauche. Nous prenons RTNC.
Merci, c'est dans le même sens que mon confrère Blaise, mais nous avons appris qu'il y a eu beaucoup d'hésitation de la part du Conseil de sécurité avant de publier les rapports impliquant le gouvernement rwandais dans ce qui se passe dans la partie est. Ma question est celle de savoir pourquoi le Conseil de sécurité a-t-il tant hésité avant de publier le rapport alors que des preuves éloquentes fournies par des experts impliquaient le Rwanda. Au colonel, ça, là c'est à M. Mounoubaï, au colonel, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu des éléments de M23 qui ont fait défection et qui se sont rendus à la MONUSCO, à la force de la MONUSCO, et la MONUSCO à son tour les a mis à la disposition de croiseurs. Avant de le rendre, de le remettre, disons, auprès des DDRR, ils seraient quand même verbalisés. Et s'ils ont été verbalisés, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Merci.
Sur la première question, ici dans cette salle aussi, nous avions déjà parlé de ce protocole qui gère la publication des rapports. Je voulais donner l'exemple au niveau, par exemple, des droits de l'homme. Lorsqu'il y a un rapport qui doit sortir sur la République démocratique du Congo, ce rapport est d'abord envoyé au gouvernement pour que le gouvernement en prenne connaissance, prépare sa réponse, ensuite on publie le rapport. Parce qu'on ne veut pas mettre le gouvernement de la République démocratique du Congo devant un fait accompli où il sera surpris de voir quelque chose qui sort et dans lequel il est il y a peut-être des accusations portées contre lui. Et c'est la même procédure qui a géré la publication de ce rapport du groupe des experts sur la République démocratique du Congo. Ce que le Conseil de sécurité a fait, c'est de retarder la date de publication, de mettre d'abord ce rapport à la disposition du gouvernement du Rwanda avant que le rapport ne sorte. Donc, quand le rapport est sorti, le gouvernement du Rwanda était pleinement au courant de son contenu. Donc, ça n'a pas été... ça a été retardé, mais on n'a pas refusé la diffusion de ce rapport.
Oui. Ah, pardon. Effectivement, comme je l'ai tantôt souligné, nous avons enregistré des redditions des éléments du M23 auprès de nos deux postes opérationnels déployés aussi bien à Belgian Hills et à Rugare, de ces éléments-là qui ont été transférés au DD3R de Kiwanja. Maintenant, qu'est-ce qui sort des interviews qui ont été menées par le DD3R? Jusqu'à présent, nous n'avons pas connaissance de ces rapports, donc peut-être un peu plus tard, quand nous les aurons, nous pourrons vous communiquer ces informations.
Prenez une question derrière.
Merci, c'est Isaac Mwenza pour le compte mensuel Special Report. Ma question s'adresse au colonel Bass. Dans un communiqué de presse qui nous est parvenu le samedi passé, la société civile du Nord Kivu fait état d'une incursion d'une brigade de l'armée rwandaise dans le territoire de Rutshuru. Ma question est de savoir si vous êtes au courant de ça, ou si vous pouvez confirmer ou infirmer cette dénonciation de la part de la société civile du Nord Kivu. Merci.
Je vous remercie pour cette question, d'ailleurs, qui fait l'objet de beaucoup de discussions, parce que la société civile, effectivement, du Nord Kivu, a publié un communiqué de presse le dimanche, faisant état, justement, de présence de troupes étrangères dans le groupement de Binza et de Mbwashi, particulièrement à Katwegoro et aussi à Kasiki dans le groupement de Mbata et que même un bataillon serait positionné à Kasiki et que les gens, en fait les populations, craignaient un peu que la coalition justement des éléments du M23, des Maïmaï et en plus de ces troupes étrangères qui sont supposées être stationnées sur le territoire congolais, donc ces peurs avaient engendré au sein des populations civiles quand même une panique et des déplacements qui commençaient à être notés. Mais vous savez, tout comme moi aussi, jusqu'à présent, que cette information n'a même pas été vérifiée ou confirmée, pardon, par les éléments de la les autorités administratives de la province du Nord Kivu qui prennent note de ces informations, mais jusqu'à présent aucune confirmation réelle n'a été donnée concernant la présence de ces troupes, mais la MONUSCO continue à monitorer la situation et à essayer d'en savoir un peu plus en déployant des patrouilles dans cette zone.
Monsieur Kambere. Où est le micro? Donnez un micro à M. Kambere, s'il vous plaît.
Merci, Monsieur le porte-parole. Je me nomme Benoît Kambere Lusumba, pour le compte du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. Monsieur le porte-parole, souffrez que je revienne sur les déclarations du président de la CENI du haut de la tribune de l'Assemblée nationale. Maintenant que des choses que je me garde de qualifier commencent à se dire et à se savoir, vous ne pensez pas que ce serait le moment pour la MONUSCO, qui a suivi de très près, autant que beaucoup d'organisations, n'est-ce pas, la société civile, les missions d'observation extérieures, et particulièrement appuyer la MONUSCO, appuyer la CENI, vous ne pensez pas que ce serait le moment d'ouvrir un pan de votre rapport que vous dites interne, et qui fait que maintenant, des choses commencent à se dire. J'ai dit.
Oui, encore une fois, nous entrons dans cette théorie du complot. Vous savez des choses, vous ne voulez pas le dire, vous cachez des choses, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, la MONUSCO reçoit ses instructions du Conseil de sécurité. Nous restons strictement dans le cadre de ce que le Conseil de sécurité nous demande de faire. Le Conseil de sécurité ne nous a pas demandé de faire le monitoring des élections. Le Conseil de sécurité ne nous a pas demandé de certifier les élections. Le Conseil de sécurité a dit MONUSCO, appuyez la CENI, apportez-lui tout le soutien logistique et technique dont elle a besoin pour les élections. Et c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas fait de rapport secret, nous n'avons pas fait de monitoring secret, nous n'avons pas de rapport que nous cachons au public. Nous n'en avons pas. Et voilà tout ce que je peux vous dire. Pasteur?
Merci pour la parole, pasteur Chibango, pour les scripts. Je reviens toujours sur le problème des élections. Le président de la CENI a mis vraiment, a cité même nommément certains agents de la MONUSCO qui seraient à la base de la confusion qui se déroulerait sur les résultats des élections, qu'un certain monsieur qui était qui a induit le monseigneur et le cardinal en erreur. Et aussi, il faut dire que il y a au mois de décembre, nous avons posé la même question de savoir où se trouverait le bulletin que Ngoyi Mulunda aurait consigné à la MONUSCO. Donc, il aurait dit qu'on devrait le brûler en public. Et jusqu'à présent, la MONUSCO n'a rien dit sur ces points-là. Et voilà, c'est ça ma préoccupation.
Ok, peut-être concernant la détention ou de bulletins qui auraient été remis à la MONUSCO, peut-être que mon collègue des élections de l'adventeur va répondre à cette question, mais moi je reviens à la première partie de votre question. Vous avez dit d'abord des éléments de la MONUSCO pour ensuite finir par une personne de la MONUSCO. C'est là qu'on crée la confusion. Le président Mulunda a parlé de une personne, pas des éléments, pas des agents, pas de... Non, une personne. Ok ? Soyons d'accord là-dessus. Deuxièmement, je ne pense pas... Vous connaissez tous le cardinal Mosengo. Son éminence, le cardinal Mosengo. Je pense quand même que c'est un homme dont l'intelligence est connue sur le plan national. Et sur le plan international, puisque vous voulez, je répète ce qui est dit dans la salle. Maintenant, vous voulez dire que une personne, travaillant à la MONUSCO, a voulu, passez-moi le langage, rouler le cardinal Mosengo dans la farine. Je pense que cette fois, c'est à Monseigneur Mosengo que vous êtes en train de faire du tort, qu'il n'a pas cette intelligence pour accepter les conclusions d'un premier venu et commencer à se baser là-dessus pour prendre des positions. Je ne pense pas quand même que Monseigneur Mosengo est à ce niveau. C'est un monsieur, vous l'avez dit vous-même dans la salle, je le répète, qui a une intelligence reconnue sur le plan international. Maintenant, je ne sais pas si tu as quelque chose concernant cette histoire de... Oui, prends ce micro. Y aurait-il des bulletins que la MONUSCO a gardé?
Nous n'avons pas accès aux bulletins. Nous avons simplement transporté les bulletins, mais nous n'avons pas accès aux bulletins. Nous avons simplement chargé et déchargé les bulletins. On les a amenés vers les centres de redistribution, dans les hubs. Et voilà, c'est simplement la seule chose que nous avons fait.
Voilà. Encore une fois, j'espère que là encore, on a mis fin à ce mythe-là. Non, c'est pas ça. Je regarde la montre, il est 12h. Donc, je vous remercie d'avoir fait le déplacement ici. J'espère avoir apporté quelques clarifications à vos questions. Merci beaucoup et rendez-vous à la semaine prochaine.